Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux. Amnesty, voilà, nous revoilà pour notre deuxième mardi du mois de mai, le dernier, du mois d'avril, oh là là, je veux déjà être au 1er mai, je suis en avance. Donc, eh bien, c'est moi qui démarre l'émission. Didier est parti cueillir du muguet, mais oui, ça arrive. Alors aujourd'hui, nous sommes avec...
Bonsoir.
Sabine.
Bonsoir.
Et Françoise. Et c'est Françoise qui va commencer.
Oui, eh bien, je vais vous parler... des élections européennes.
Mais Didier nous en a déjà parlé en nous disant l'autre fois l'importance du rôle des députés. Et toi,
ouais,
de quoi vas-tu parler ?
Je vais vous donner la perspective un peu que nous donne la présidente d'Amnesty International. Voilà. Tous les citoyens et citoyennes de l'Union européenne, comme vous le savez, vont être appelés aux urnes entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, ce sera le 26 mai. Selon un sondage BVA Orange, 62% des Français sont intéressés par ce scrutin et seulement 55% des moins de 35 ans. Il est donc urgent de faire revivre l'idéal européen, de défendre les principes qui l'ont fondé. Paix, solidarité entre les peuples, respect des libertés fondamentales, équité. Dans cette campagne, Amnesty International a un rôle crucial à jouer. Tout en restant impartial et non partisan, nous devons inscrire le respect des droits humains dans les débats et veiller à ce qu'il soit la boussole de ces élections. Le sombre bilan de l'année 2018 nous impose une mobilisation maximale sur ces enjeux. Les droits des femmes, comme l'accès à l'avortement, ont été attaqués au nom de la tradition et du nationalisme. En Pologne, en Hongrie, mais aussi en Italie ou en France, les responsables politiques remettent en cause nos valeurs fondamentales en prétendant protéger la nation. Tout indique, malheureusement, que lors de ces élections, la peur de l'étranger, du terrorisme, de la précarité vont être des armes de séduction massive utilisées par certains partis pour attirer des citoyens inquiets. Ce discours toxique se traduit déjà par des politiques contraires au droit international européen. L'Union européenne est à la dérive sur la question migratoire. Des accords honteux permettent ainsi que des migrants, stoppés en Méditerranée, soient renvoyés vers l'enfer libyen. La solidarité envers ces migrants est quant à elle criminalisée, y compris en France, et des ONG, notamment en Hongrie, sont victimes de représailles. Plus que jamais, nous avons besoin, dit la présidente évidemment d'Amnesty, de tous nos membres et sympathisants pour porter notre travail de plaidoyer auprès des candidats. Il aura plus de poids si notre voix citoyenne soutient un idéal et appelle avec force au respect des droits humains. C'est en étant au plus près de la population que nous pourrons faire entendre un autre discours sur l'importance de protéger les valeurs fondatrices de l'Europe. Tout simplement parce qu'elle nous protège. Faisons en sorte que la voix des défenseurs des droits humains soit entendue à travers ce vote et qu'elle inspire le devenir de l'Union. Et je vous rappelle que Jean Monnet disait « Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes ». Il disait ça en avril 1952, quand il a fondé, ça a été un des pères fondateurs de la communauté européenne, voilà.
Alors toi, là, c'est ton discours par rapport à l'Europe, c'est l'importance pour Amnesty par rapport à la défense des droits humains.
Et bien sûr.
Et aussi le fait d'avoir des lois qui vont pouvoir agir sur l'Europe entière.
Oui.
Alors moi, je sais que sur Amnesty, il y a une proposition d'action, alors on la fera peut-être pas nous sur Évreux, c'est d'interroger les gens dans la rue, le public, en leur demandant qu'est-ce que pour eux représente le plus important, qu'est-ce qui est le plus important en Europe, quelle est la valeur la plus importante. Et essayer de voir un peu, de faire un petit spot de montage. Alors bon, bah, comme on est à la radio, on pourrait peut-être proposer aux auditeurs de Principe Actif de nous mettre des petits mails ou de nous envoyer...
Ah oui, ça serait une bonne idée.
Voilà, sur « Et vous, l'Europe ?» parce que effectivement, c'est quand même, même s'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir ou beaucoup de réflexions par rapport à où en est arrivée l'Europe et le nombre de pays qui sont fédérés en Europe, c'est quand même une valeur qui est importante pour la défense des droits humains. Donc, alors pour vous, qu'est-ce qui est important, la valeur la plus importante en Europe ? Qu'est-ce que tu en penses, Sabine ?
Très bien. À vos claviers.
Voilà.
Lâchez-vous.
Voilà. Et puis sans ça, venez nous voir aussi. Hein. Vous pouvez aussi... nous amener un petit film ou quelques paroles, sans problème. Mmh. Voilà, donc on verra ça d'ici le mois prochain, puisque les élections, c'est le
26 mai.
Hein. Oui, donc c'est bientôt. Alors aujourd'hui, comme on va parler de l'Europe des Européens, on avait envie, nous, de vous faire une émission pour voir un peu ce qui se passe au niveau des femmes, au niveau des hommes, des droits des... trans, LGBT, voilà, Sabine va nous redonner l'explication, LGBT, non, tu veux pas nous donner, Sabine, elle veut pas nous le dire, bon, ben voilà, donc elle va nous le dire quand ça va être son tour.
Lesbienne, gay, bi, et trans.
Voilà, donc ça, il y a des choses quand même.
Voilà, tout ce qui a dérangé pendant des décennies, des millénaires, et ça continue.
Et c'est encore bien compliqué actuellement. Et Françoise avait envie de nous parler des enfants.
Des enfants, oui.
Et puis après, peut-être un petit méli-mélo des informations dans le monde qui nous a interrogés, qu'on a envie de vous faire connaître. Donc là, pour commencer...
Vous allez parler du Brésil.
Alors, nous allons parler du Brésil. Alors donc, nous allons commencer par les hommes. Oh, aïe, 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 on aurait dû commencer par les femmes, ça ne va pas, ça. Mais elles seront après.
Oh, allez.
Alors, donc Sabine... Tu as parlé un petit peu de ce qui se passe au Brésil. Donc moi, j'ai appris qu'effectivement, il y a actuellement sur Amnesty, il y a une vidéo sur la situation depuis les nouvelles élections de Bolsonaro. Alors, je l'ai regardée, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait la passer à la radio ? Mais non, il y a trop de choses, il y a du sous-titrage. Mais allez la voir, elle donne vraiment un petit peu froid dans le dos par rapport à la situation des droits humains au Brésil. Donc là, ce qu'on a, c'est dans l'article de notre fameuse chronique, vous savez bien, le journal mensuel d'Amnesty. Donc, c'est le sort actuel d'un député brésilien, Jean Willis, qui a 44 ans, qui est militant LGBT et qui a dû quitter son pays. Et il nous explique pourquoi. Sabine va vous faire la lecture.
Alors,
pourquoi êtes-vous résigné à vous exiler ?
Alors, depuis des années, je me fais son porte-parole. Depuis des années, je recevais des menaces. J'étais ciblée par des fondamentalistes religieux, des fascistes et par la famille Bolsonaro qui ont créé, puis diffusé massivement des fake news pour faire de moi un ennemi public. Avec l'ascension politique de Jair Bolsonaro, président du Brésil depuis janvier 2019, et l'émergence de groupes de plus en plus puissants, violents, incontrôlables, ces menaces sont devenues très sérieuses. Le 14 mars 2018, ma collègue et amie Marielle Franco, conseillère du Parti Socialisme et Liberté, le PSOL, a été touchée à la tête à 4 reprises. Son meurtre reste impuni, même si nous savons que les assassins étaient aux ordres d'un ancien major de police militaire lié à la famille Bolsonaro. Ma mère et mes frères, qui ne sont pas des personnalités publiques, ont commencé à recevoir des menaces, des messages, des menaces de mort où figuraient des informations personnelles, adresse, numéro d'identité, etc. Et j'ai dû voyager dans un véhicule blindé, accompagné de gardes armés. Pendant des mois, ma vie est devenue une sorte de détention à domicile. La Commission interaméricaine des droits de l'homme de l'OEA, après analyse de mon dossier, a conclu que ma vie était en danger et a demandé au Brésil des mesures de protection. Avec l'arrivée au pouvoir de la famille Bolsonaro, je n'avais aucune garantie de pouvoir rester au Brésil.
Actuellement, quelle est la situation des droits des personnes LGBT au Brésil ?
Au Brésil, la violence contre les LGBT y a toujours été très élevée. On compte plus de 300 meurtres chaque année. Pourtant, nous avons cru à une évolution de la société, avec la reconnaissance par la justice du mariage pour les couples LGBT en 2013 et notre action au Congrès national. Bolsonaro a été amené au pouvoir grâce à ses discours de haine, à la montée en puissance des églises évangéliques et à l'apparition d'un mouvement fasciste. Macho, homophobe, raciste, xénophobe, Bolsonaro est une menace pour les droits humains.
Et vous, votre exil est-il définitif ?
Non, chez moi c'est au Brésil. Il se trouve là, ma famille, mes amis, mes livres, la culture dans laquelle j'ai été élevée, mon militantisme, mais je ne peux pas y retourner maintenant, pas tant qu'ils seront au pouvoir. Voilà, obligée de partir, menacée. Voilà. Bon, enfin, il y en a qui ne peuvent pas quitter le Brésil et qui sont persécutés régulièrement.
Voilà, donc là, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Donc cette vidéo, vraiment, allez la regarder sur le site d'Amnesty. Elle a été mise en ligne il y a peu de temps et elle donne vraiment des exemples de ce qui se passe actuellement. Et c'est bien dommage parce que c'est un bien beau pays, le Brésil. Et de savoir que, et aussi le poids, je pense qu'on ne se rend pas compte, c'est des églises évangélistes aussi qui sont vraiment très puissantes et fédèrent toute une population, on va dire, plutôt bourgeoise et qui a le pouvoir. Donc ça, c'est aussi très, très inquiétant. Alors, on est désolé parce qu'on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles.
Oui, mais alors, je voulais vous dire que la marche des fiertés aurait lieu sur Rouen le 4 mai, bientôt.
Et sans doute le groupe d'Amnesty de Rouen et aussi les Hébroïciens. 4 mai, d'accord.
Cette semaine, hein.
Voilà.
Et à Paris, c'est en juin, je crois.
Bon, après, on peut chercher sur Internet, à voir dans toutes les grandes villes où ça se situe.
Le 29 juin à Paris.
Voilà, donc Rouen,
donc
le 4.
Vous allez sur le site et il n'y a pas de problème, vous trouverez.
Voilà, oui. Donc moi, je disais que les autres nouvelles qu'on avait par rapport aux droits LGBT... Donc on a Indonésie où il y a une censure homophobe pour des choses qui sont vraiment anodines. Le gouvernement a supprimé un compte Instagram en réalité c'était une bande dessinée sur une vie quotidienne d'un homme musulman gay et ça n'avait rien de sexuellement explicite ce qu'il a dit pour pouvoir le supprimer quoi. En fait, ça faisait l'apologie de la pornographie. Donc on voit aussi la tendance à réprimer toute expression. Et Sabine, en Tunisie aussi, tu avais une information.
Un harcèlement judiciaire à répétition pour l'association de défense des LGBTI, Shams, qui est dans le viseur des autorités tunisiennes. Et en janvier, le gouvernement formait un recours contre la décision de justice de 2016 qui avait blanchi cette association. Donc, on y retourne, quoi.
Voilà, il y a une surveillance à avoir partout, quoi.
Et 115 personnes ont été arrêtées dernièrement en raison de leur orientation sexuelle, supposée, en 2018. 115 personnes.
Alors Edith, maintenant, tu devais nous parler de ce qui s'est passé à l'ONU un peu.
Alors oui, là maintenant, c'est le versant femme maintenant. Effectivement, il y a une nouvelle que j'ai entendue à la radio et qui me fait bondir. Alors j'ai essayé d'en savoir un peu plus. Donc c'est ce qui se passe... à l'Organisation des Nations Unies, en début avril, donc il y avait un texte pour combattre le viol comme arme de guerre. Donc on pourrait penser qu'il y a un consensus par rapport effectivement à l'organisme, les Nations Unies, dont le but premier est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Mais les États-Unis menacent de mettre leur veto à ce texte. qui a été examiné au mois d'avril lors d'une session spéciale. Alors j'essayais de comprendre un peu pourquoi, comment les États-Unis pouvaient mettre le veto à un texte qui est très important pour les femmes, quand on sait l'importance de, de l'arme du viol pendant les guerres, aussi bien au, tout ce qui s'est passé au niveau de la Yougoslavie, ce qui s'est passé au niveau de l'Afrique, ou ce qui se passe encore. Donc, ce qui semble, c'est un problème de vocabulaire, parce que les Américains, donc notre ami Trump, on va dire, ne veulent absolument pas qu'il y ait le mot « genre » d'installer dans une, d'indiquer dans un texte. Pourtant, quand on évoque, effectivement, ils ne veulent plus de passages évoquant la santé sexuelle et procréative. On ne voit pas très bien comment on peut ne pas en parler quand on parle de problématiques de guerre et par rapport aux femmes. Ça serait une énorme contradiction de parler d'une approche, de parler d'une approche centrée sur les survivants et ne pas mentionner les services de santé sexuelle et reproductive, souligne Pamela Patton, représentante spéciale des Nations Unies pour les violences sexuelles dans les conflits. Si nous laissons les Américains supprimer ce vocabulaire, tout sera édulcoré pendant longtemps. Pour une source aussi d'un diplomate européen qui nous dit « Les Américains ont changé de camp et se trouvent à présent dans une alliance contre nature avec les Russes, le Vatican, les Saoudiens et les Bahamas. » Donc c'est quand même tout à fait inquiétant. Alors, les Français, eux aussi, donnent leur avis. Il y a François Delattre, qui est le représentant de la France, qui dit nous déplorons que des menaces de veto aient été agitées par des membres permanents du Conseil pour contester 25 années d'acquis en faveur des droits des femmes dans les situations des conflits armés. Des concessions importantes ont été accordées sous la pression de plusieurs membres permanents qui n'ont pas permis au texte d'aller aussi loin que nous l'aurions souhaité. Il est inexplicable que l'accès à la santé sexuelle et reproductive ne soit pas explicitement reconnu aux victimes des violences sexuelles, elles qui sont si souvent la cible d'atroces exactions et de mutilations barbares, a dit aussi le représentant français. Et selon certains diplomates, l'opposition de l'administration conservatrice de Donald Trump a été déterminante pour empêcher un consensus, c'est ce que je vous ai dit. Et depuis toute la session, Washington s'est forcé de gommer dans le texte les mentions relatives aux femmes tombant enceintes après un viol, afin de ne pas favoriser les avortements. Donc on se rend compte comment une politique, on va dire, conservatrice peut aussi influer sur les droits des femmes victimes pendant les conflits. Donc même si le texte a été adopté, il ne va pas aussi loin que l'Allemagne qui était actuellement à l'origine de ce texte aurait voulu. Et en même temps, il y a les deux, le docteur...
celui qui s'est occupé des femmes, voilà, en Afrique.
Denis Mukwege, et aussi la personne qui a eu la représentante des Yézidis qui est au niveau de l'ONU, qui a dit que c'était vraiment scandaleux, car de toute manière, à tout moment des conflits, on ne reconnaît absolument pas le droit des femmes, et à aucun moment un homme a été condamné par rapport à ce qui s'est passé. Donc là, il y a vraiment deux poids, deux mesures, et les Américains, ils sont pour quelque chose quand même. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très soucieux. Donc peut-être une petite pause musicale maintenant.
Oui, oui, oui. Principe actif, c'est actif par principe.
À traverser les murs, à survivre de fuite, à dompter les fêlures, apprendre à grandir vite, dans l'enfance qui s'écroule. Au début de l'histoire, dans la chaleur des foules qui se migrent d'espoir, à combattre vraiment, à courir pour son bien, plus pour faire semblant, comme quand on jouait aux Indiens, à éviter les balles, à cache-cache dans la cendre, à prier aux étoiles, à chercher à comprendre. Tu chantes, pour couvrir le bruit. Tu chantes dans la vie. Embrasser ces posters qui sourient dans la chambre, la photo de ses frères partis en novembre, se noyer dans la crainte, dans des barques de fortune, au nom d'une guerre sainte de goudron et de plumes, des milliers au départ, une poignée d'arrivées, au pays des droits d'y croire, qu'on nous a raconté, qu'a oublié l'histoire, les wagons et les trains, repliés dans le noir, notre jungle du quotidien. Tu chantes, pour couvrir les cris. Tu chantes, dans la nuit. Parce que toi, petite sœur, ils ne te peuvent rien. Tu es bien au-dessus de leur folie. Tu es bien au-dessus de leur rage au sourire d'adulte guerre. Tu es l'enfance qu'on leur a volée. Tu es le regard émerveillé. Tu es l'espoir sous les bombes, celle qui pleure et puis oublie. Celle qui voit la beauté partout, dans leur monde et dans les flaques. Tu es l'imagination. Tu es les histoires qu'on ne leur raconte plus. Tu es les chansons qu'on ne leur a jamais chantées. Tu es cette fleur unique dans le champ de mine. Tu es son odeur, tu es ses pétales, tu es cette chance. Tu es le fou rire dans le chaos. Tu es les secondes d'oubli. Tu es la flamme. Tu es la flamme. Et tu chantes. Tu chantes. Tu chantes. Et c'est ton abri. Tu chantes. Tu chantes dans mes nuits et tu chantes dans mes nuits et tu chantes dans la vie.
Alors, c'était Ben Herbert Larue qui nous chantait son morceau, c'est Myriam. C'est une jeune femme à Alep qui effectivement chante pour pas entendre le bruit des bombes, etc. Voilà.
Il
nous
fait penser à Brel.
Oui, un petit air de Brel.
Et
oui.
Puis Sabine, tu l'as vu il y a pas longtemps, il paraît.
Oui, mais je suis retournée le voir.
Voilà, et moi l'année dernière, c'était très sympa. Alors, moi je pense que là, au niveau femme, Sabine... Petite nouvelle quand même, tu ne vas pas laisser passer ça.
Alors, en Équateur, malgré les promesses du président Moreno, les femmes amazoniennes continuent de défendre les droits humains. Et elles sont toujours en danger. Leur vie de militante écologiste du collectif de ces femmes amazoniennes et des défenseurs de l'Amazonie contre tous ces intérêts politiques et économiques liés au projet d'extraction sur tous ces territoires indigènes sont mises en danger par l'incapacité et l'absence de volonté politique des autorités équatoriennes d'assurer leur protection et de conduire des enquêtes pénales sur les attaques et menaces qui les visent. Et comme il y a des intérêts derrière, c'est pas prêt de se régler. Donc, elles ont créé un collectif d'une dizaine de femmes et elles défendent l'environnement, le droit des peuples indigènes. En 2018, quatre membres de ce collectif, Nema Grefa, Salomé Aranda, Margot Escobar, ont signé une série d'attaques et de menaces de mort qui ont mis en lumière les manquements des services du procureur général. Donc, cette crise environnementale et sur les droits fondamentaux de toutes les personnes, tous ces impacts, c'est catastrophique. Donc, elles ne lâchent rien, mais elles sont de plus en plus menacées et pas du tout protégées. Elles reçoivent de plus en plus de représailles liées au combat qu'elles mènent pour défendre leur territoire. Et il y a toujours rien pour identifier les responsables face à ces manquements. Les défenseurs finissent par se charger elles-mêmes des enquêtes. Mais bon, ça va pas bien loin. Ce collectif estime également que les mesures de protection accordées à ses membres sont insuffisantes et elles restent exposées quotidiennement. Donc les conséquences manifestes et concrètes sur des attaques impunies. Et elles continuent malgré tout à risquer leur vie et celle de leurs proches pour défendre leur terre. Leur terre mère, comme elles disent. Donc de tout cœur avec elle.
Voilà, bravo. Hein. Et effectivement, en plus, voilà, ce qu'il y a, c'est toutes les richesses dans les sols qu'il y a dans ces pays-là et au niveau des populations. Donc c'est vraiment Amazonie, bravo, comme tu dis, Françoise.
Ils détruisent tout en
Et là, ce sont les femmes qui se lèvent.
Il y avait une zone qui était hyper protégée. Quand on y passe aujourd'hui, c'est catastrophique, quoi. Et on a laissé faire parce que ça rapporte des ronds et puis la nature, ben,
voilà,
on l'oublie un peu.
J'ai entendu effectivement en Guyane, en fin de compte, c'est la France est le seul pays européen qui a un petit morceau de l'Amérique du Sud. Et effectivement, il y a ce gros projet de mine d'or qui est très très controversé. Et on aimerait bien aussi que la France, elle donne un point d'appel en mettant un arrêt à ce projet qui, au niveau écologique, semble quand même très, très, très compliqué.
Quand tout sera bien saccagé, les poissons, ils commencent à être tous... Voilà. Il y a plein d'enfants qui meurent parce que la rivière est polluée, parce qu'ils font sauter les trucs n'importe comment et il y a du poison carrément dans l'eau. Quoi.
Et il faut se rendre compte que défendre les droits fondamentaux de l'environnement dans ces pays-là, ça signifie
c'est
risquer
vital.
Sa mort. Et celle de ses proches.
C'est vital, c'est la seule chose qu'ils ont, leur terre. C'est leur seule richesse.
Donc on a dit homme, pas terrible, femme,
pas terrible,
enfant, Françoise.
Enfant, eh bien voilà, je vais vous parler d'une action que propose le centre Primo Levi en rapport avec l'UNICEF. C'est l'UNICEF qui a lancé cet appel. On n'enferme pas nos enfants. L'an dernier, 208 enfants placés en centre de rétention en raison du statut migratoire de leurs parents, en France bien entendu. Hein. Le préfet de Moselle a enfermé le plus grand nombre d'enfants l'année dernière, parmi tous les préfets de France.
Bravo !
Si bien qu'il y a une pétition qui est annoncée et qui est envoyée au préfet de Moselle. Le nombre d'enfants enfermés a été multiplié par 5 de 2013 à 2018. Et vous pouvez soutenir cette action en utilisant hashtag « Vous avez une clé pour les libérer ». Voilà. C'est le site de l'UNICEF, retransmis par le centre Primo Levi, qui organise cette action.
Donc il faut aller sur Internet et signer.
Bien sûr.
Oui. Il faut y aller, parce que les enfants dans un pays où on est censé respecter des droits, eh ben on les...
Ça, c'est la dernière mouture de la loi d'asile,
on l'a bien... Oui, c'est la conséquence du projet d'asile d'immigration.
Voilà. Trump les enfants enfermés avec les parents. Oh ouais, mais on va faire un truc bien, mais ça va, ils vont quand même être en détention.
Ben oui.
Les enfants, ça ne doit pas être en détention.
Ça devrait être à l'école, et en train de jouer.
Alors, j'ai aussi... Vous parlez d'un autre problème concernant les enfants, un problème que l'on dénonce depuis longtemps aussi. C'est le problème des enfants au Malawi. Beaucoup d'enfants sont albinos. Depuis la fin de l'année 2018, le Malawi connaît une recrudescence d'attaques visant les personnes albinos. Yazine Piri, 54 ans, et Gusdon Makarinja, 14 ans, ont été tués et mutilés en décembre. Eunice Nikoreja, un an et demi, a été kidnappée, une petite fille, a été kidnappée en janvier. Deux autres tentatives d'enlèvement ont été heureusement stoppées par des voisins. La récente hausse du nombre d'actes de ce type prouve que le gouvernement, malgré les modifications de la loi visant à assurer des peines plus sévères pour les auteurs, n'a pas tenu ses engagements de protection des albinos. Et c'est une des chercheurs d'Amnesty qui le mentionne. Au Malawi, les meurtres d'albinos visent principalement à prélever leurs membres, leurs organes ou leurs os, ensuite vendus pour être utilisés dans le cadre de rituels de sorcellerie. Un commerce révoltant mais très lucratif. La réponse du gouvernement malawite à ces attaques reste largement insuffisante. Alors que l'Association des personnes porteuses d'albinisme au Malawi annonçait son intention d'organiser des veillées de protestation devant le palais présidentiel du 6 au 9 mars dernier, le ministre de la Sécurité intérieure, Nicolas Daoussi, a relativisé l'ampleur des violences, affirmant qu'elles n'avaient pas atteint un niveau critique. Il a depuis présenté ses excuses. Les autorités doivent veiller à ce que les auteurs présumés soient traduits en justice dans le cadre des procédures équitables pour ces actes épouvantables. Voilà, donc espérons qu'il y aura une meilleure situation de ces personnes-là et de ces enfants.
Ça existe dans beaucoup de pays d'Afrique, à Madagascar aussi. Oui. Ils sont persécutés. C'est catastrophique, quoi.
Je crois que il y a quelques années, on avait aussi, dans le cadre des 10 jours pour signer, fait une campagne justement par rapport au Malawi. Oui. Et il y avait eu des améliorations au niveau de la loi. Mmh. Et on se rend compte que là, il y a une banalisation. Ça et puis la réponse de ce politique est quand même... c'est déjà des faits tellement horribles. Oui, c'est vraiment des choses à savoir et à aider aussi les associations dans le pays à faire changer la mentalité des gens et aussi les lois. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire maintenant ? Hommes, femmes, enfants, qu'est-ce qu'il nous reste ?
Israël, toi ? Tu devais parler d'Israël ?
Alors oui, mais c'est hommes, femmes, enfants, Israël. Oui, effectivement, là, on va essayer de faire peut-être un petit tour au niveau mondial de choses qui nous a interpellés et qu'on a envie de partager avec vous. Et bien moi, c'est quelque chose que j'ai vu en début d'année sur le site d'Amnesty, dont on n'avait pas encore parlé. C'est quelque chose qui se passe dans les territoires occupés. Alors bon, je vais faire très rapidement un petit rappel. Donc Israël qui occupe des territoires palestiniens. Là, vous êtes bien au courant. Et le principe, on va dire, de l'État d'Israël, c'est d'installer des civils israéliens dans ces territoires en violant le droit international humanitaire. Et cela constitue, on va dire, Amnesty dit que cela constitue un crime de guerre. Ces territoires sont de plus en plus occupés par des colonies qui sont des colonies qui n'ont aucun droit légal, et les terrains des Palestiniens sont utilisés pour construire ces colonies. Et là, dernièrement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi tout un axe par rapport au tourisme. Alors vous allez me dire, le tourisme pour aller dans des colonies israéliennes sur des territoires palestiniens, c'est un peu étonnant. Eh ben non, pas du tout. Alors je vais vous donner le nom de quelques entreprises que vous allez connaître. Si je vous dis Airbnb, Booking.com, Expedia, TripAdvisor, voilà, vous connaissez tous, vous les utilisez pour vos loisirs. Et quand je dis vous, je me mets dans le sac, hein. Moi aussi, j'utilise ces industriels qui nous proposent des hébergements, qui nous proposent des hôtels, voire des séjours. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, Airbnb propose plus de 300 offres d'hébergement dans les colonies israéliennes. TripAdvisor, qui lui aussi, basé aux États-Unis, propose plus de 70 activités, excursions, restaurants, cafés, hôtels et locations d'appartements. Booking.com, qui lui a son siège aux Pays-Bas, propose 45 hôtels et hébergements. Expedia, qui est basé aux États-Unis, propose quant à elle 9 fournisseurs d'hébergement, dont 4 grands hôtels. Alors donc Amnesty et d'autres organisations ont commencé à aller frapper à la porte de ces quatre professionnels pour leur dire, mais attendez, vous êtes carrément dans l'illégalité puisque vous faites des propositions d'offres sur des terrains où Israël ne devrait pas installer des colonies et qui appartiennent à la Palestine. Alors la réponse... Effectivement, que l'on a sur le terrain, ce qui se passe, il y a des villages où les Palestiniens sont carrément expulsés. Donc, on a l'exemple d'un village. Alors là, François, si moi, je ne sais pas trop parler, c'est Khan al-Ahmar, un village bédouin, où les 180 personnes qui habitent encore risquent une expulsion parce qu'il faut faire place à une extension illégale de Kfar Adoumon, qui est tout un système touristique. Et quand même, je vous donne aussi l'information, les autorités israéliennes offrent aux villageois le choix entre deux destinations possibles. Donc les 180 personnes de ce petit village, ils peuvent aller dans un site qui jouxte l'ancienne décharge municipale de Jérusalem, non loin du village d'Aboudis, pour ceux qui connaissent, ou dans un site à proximité d'une station d'épuration non loin de la ville de Jéricho. C'est vrai que c'est quand même un beau choix, il n'y a pas à dire. Ah, et effectivement, dans d'autres villages, il y a un Palestinien qui dit « mais ce n'est pas possible, les touristes qui viennent ici sont soumis à un lavage de cerveau, on leur a menti. Ils ne savent pas que ces terres nous appartiennent. » Car outre le fait que ces quatre organisations touristiques qui proposent ces séjours, qui proposent ces lieux dans les colonies de peuplement illégal, à aucun moment elles ne disent à leurs clients qu'ils sont dans des territoires palestiniens.
Je me rappelle, j'étais en Israël et j'avais demandé à la guide, je lui avais dit à la guide israélienne, donc je lui ai dit, mais dites donc là-bas, qu'est-ce qui se passe là? Oh madame, mais c'est chez nous. Alors que c'était la Palestine. Hein. Oh là là.
Voilà. Et le gouvernement israélien, lui, il essaye de faire des sites d'hôtels à proximité de sites archéologiques pour souligner les liens historiques du peuple juif avec la région. Donc tout est fait pour, on va dire, noyer le poisson et faire que l'extension d'Israël se fasse là sous le tourisme, sous ces grosses organisations. Alors on a vu quand même, donc je signale que pour TripAdvisor, il y a toujours une pétition jusqu'à la fin du mois de juin sur le site d'Amnesty. Si vous trouvez que c'est quand même un petit peu fort de café leur politique. Et alors on a eu une fausse joie, parce qu'en novembre 2018, Airbnb s'était engagé à retirer toutes les offres situées dans les colonies en Cisjordanie, à la suite des investigations menées par Al Jazeera, Human Rights Watch et Amnesty. Cet engagement, on le trouvait déjà insuffisant, car il n'enlevait pas non plus les offres qui étaient sur Jérusalem SE. Que ne vois-je pas sur le site d'Amnesty en préparant cette émission? La volte-face d'Airbnb, qui date du 18 avril. Eh bien, Airbnb vient d'annoncer qu'elle ne supprimerait pas systématiquement les annonces situées dans les colonies israéliennes illégale de Cisjordanie. C'est une véritable honte pour cette entreprise. Elle va continuer à autoriser les annonces d'hébergement se trouvant en Cisjordanie, occupée. Et cela, c'est une manœuvre répréhensible et lâche qui porte un nouveau coup aux droits humains des Palestiniens. Cette décision est un renoncement scandaleux qui, en tant qu'entreprise, a la responsabilité de respecter les droits internationaux humanitaires et relatifs aux droits humains ou qu'elle opère dans le monde. Airbnb tente de se décharger de ses responsabilités en affirmant qu'elle reversera les bénéfices de ses annonces à des organisations caritatives. Mais cela ne change rien au fait qu'en continuant d'attirer des touristes dans les colonies illégales, elle aide à dynamiser l'économie de ces colonies. Ce faisant, l'entreprise contribue directement au maintien de l'expansion des colonies illégales. Donc voilà où on en est. Commerce et commerce. Et je vous conseille d'aller voir sur le site, il y a une petite vidéo, c'est en anglais, donc elle ne pouvait pas passer à la radio non plus, qui donne des infos sur ce que propose en activité. Parce qu'on peut passer une nuit sous une tente bédouine, on peut même tirer avec des armes contre les terroristes. Enfin, c'est tout à fait intéressant d'aller voir comment Israël et les entreprises... peuvent vendre ça aux touristes qui ne sont pas forcément au courant. Donc, allez signer.
Oui, faites-le. Hein.
Est-ce que t'as déjà eu tellement de buée à ton carreau que tu t'es senti presque obligé d'y dessiner un cœur avec ton doigt? Tu t'es déjà dit que t'aimerais bien remonter le temps pour revivre une discussion, juste pour trouver les mots qu'il faut, ce que t'as pas trouvé sur le moment, mais que t'as très bien trouvé après. Quand t'étais plus jeune et que t'avais un amoureux, tu t'es entraîné à signer son nom de famille pour quand vous serez mariés plus tard? Sur la route des vacances, tu t'es déjà dit qu'une maison était vraiment belle, que t'aimerais bien y habiter, mais en fait non, parce qu'elle est au bord de l'autoroute. Et marcher en équilibre, sur une ligne blanche, les bras écartés, comme un funambule. Tu l'as déjà fait ? Nous, ensemble, se battre des ailes qui rassemble. Toi aussi t'as le souffle magique. Tu sais, celui qu'on utilise sur nos appareils à piles qui fonctionnent plus. Quand on les sort les piles, qu'on souffle dessus, qu'on les inverse, puis qu'on les remet, et puis que ça remarche. T'es déjà retourné chez toi pour vérifier que t'avais bien éteint le gaz, que tu savais que oui, mais quand même, tu te sens mieux maintenant que t'es sûr. T'as déjà envoyé un message pour dire « Je suis dans ma voiture, j'arrive dans 15 minutes », alors que tu sais très bien que tu vas arriver dans une bonne demi-heure. T'as déjà lu 10 fois de suite la même phrase de ton même livre, puis tu finis par laisser tomber parce que t'es trop fatigué, tu la comprends toujours pas, et tu fais ça tous les soirs de toute ta vie dans ce moment. Et croquer la neige les matins d'hiver, quand le paysage est tout blanc. Tu l'as déjà fait ? Nous, ensemble, se battre des ailes qui rassemblent. Est-ce que devant un beau film, ça t'arrive de retenir tes larmes parce que t'as peur d'avoir l'air con? Et quand tu te retournes vers la personne qui est à côté de toi, tu te rends compte qu'elle aussi, elle les retient. Et ça, ça vous fait rire. Alors les larmes, elles coulent toutes seules. Mais c'est pas grave, parce qu'un sourire aux larmes, y'a rien de plus joli. Tu t'es déjà demandé pourquoi ces fleurs qu'on appelle pensées, elles ont pas de tête? Et ces fleurs qu'on appelle soucis, elles ont pas de problème? Toi aussi, t'as pleuré quand t'as appris pour les copains de Charlie Hebdo. T'as déjà éteint ta télé et ta radio pendant plusieurs jours et te dire que le monde, il va pas si mal que ça. Nous, ensemble, se battre des ailes qui rassemblent. J'ai déjà dit que même si on est différent, on l'est pas tant que ça en fait. Que quel que soit l'endroit du globe où on a posé nos envies de grandir, on a tous la même folie, la même magie, les mêmes doutes, les mêmes travers, les mêmes pètes au casque, les mêmes voix qui nous chuchotent la nuit d'essayer de trouver notre place dans ce monde, d'essayer d'y tracer nos chemins de gens heureux, heureux, sans raison. Nous, se battre des ailes. TBD, 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 TBD.
Alors, par encore un morceau de Ben Herbert Larue, se battre des ailes. Alors si vous prenez l'envie de vous battre, faites comme lui, battez-vous des ailes.
Et quand tu sais qu'un battement d'ailes de papillon peut être la cause d'un ouragan à l'autre bout de la planète, scientifiquement prouvé et dans la vraie vie, approuvé par tous, l'effet papillon, ça existe. Tu changes un détail de ce qui se passe, ça a des répercussions sur beaucoup de choses.
Principe actif.
Super Jean-Luc. Alors ah, en plus, j'avais oublié d'annoncer que la technique c'était Jean-Luc, mais alors regardez merci. Comme il est bon hein, quand même. Trop fort entre le battement d'aile et le petit papillon. Ouais. On en a de la chance quand même. Hein. Voilà. Françoise, quelques bonnes nouvelles ?
Oui, je vais vous dire un peu des bonnes nouvelles quand même. Parce que en Centrafrique, un criminel de guerre arrêté. L'ancien chef de milice anti-Balaka centrafricain, Patrice Edouard Nagaïssona, a été arrêté le 12 décembre en France pour crime de guerre, conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. C'est une avancée majeure dans la lutte contre l'impunité en République de Centrafrique et un message d'espoir indiquant que tous les responsables de crimes passés et en cours, en vertu du droit international, seront rendus en justice devant la CPI, des tribunaux nationaux ou le tribunal pénal spécial hybride du pays, a déclaré Samira Daoud, directeur adjoint Afrique de l'Ouest et centrale d'Amnesty. En Hongrie aussi, Ahmed bientôt en famille. Ahmed, syrien, condamné pour complicité d'actes terroristes lors d'affrontements avec la police à la frontière serbo-croate en septembre 2015, a été libéré le 12 janvier après 3 ans de détention. Il attend son expulsion. Son crime, s'être servi d'un mégaphone pour demander à la police de communiquer avec les réfugiés et les migrants à la frontière et leur avoir lancé des projectiles. 100 000 personnes dans le monde avaient appelé à sa libération, condamnant les autorités hongroises. Une fois de plus, elle s'était appuyée sur les lois antiterroristes pour diaboliser réfugiés et migrants. Ahmed devrait s'envoler pour Chypre afin de retrouver sa famille. Bon, peut-être que vous voulez parler de l'Afghan.
Eh bien, effectivement, oui, il y avait un témoignage dans la chronique qu'on avait envie de passer la dernière fois, puis on a manqué de temps. Donc là, on va essayer de se garder un petit peu de temps avec Sabine, parce que ben, Claire-Lise n'est pas là aujourd'hui. Vous savez, Claire-Lise, son combat aussi par rapport à son appartenance au CFED et la vie des migrants sur Évreux. Et là, on trouvait que le témoignage de ce jeune de 17 ans donner vraiment des informations et de se rendre compte les galères qu'ils ont vécues avant d'arriver en France et que c'est pas du tout pour s'installer ici et c'est vraiment, vraiment très très dur pour eux. Donc là, Wally, c'est un Afghan qui actuellement est dans le nord de la France. Il a 17 ans. Il a été, lui, pris en charge par l'ASE. Il a été dans un foyer. Il a été dans une famille d'accueil depuis qu'il est arrivé. Mais il est tellement mal qu'il n'a pas pu tenir, car il a besoin de liberté, car il a, dans sa tête, il n'a qu'une pensée, c'est sa famille. Alors, il va raconter, il va un petit peu expliquer son histoire. Alors, Sabine, elle fait très bien les voix. Elle va faire la voix de Wally.
Nous avons fui les talibans qui se rapprochaient de notre village. Lorsque mon père nous a annoncé que nous irions en Angleterre, je lui ai répondu, c'est une blague ou quoi? Je voulais rester en Afghanistan. La famille quitte en avion un pays endeuillé par les attentats. Après une escale à Istanbul, elle gagne avec les passeurs la côte ouest de la Turquie, d'où partent chaque nuit des Zodiacs pour la Grèce. Des bateaux clandestins surchargés de passagers, espérant trouver refuge en Europe. Son regard se perd, il s'interroge. Où sont-ils? Ils sont vivants? Il en est sûr. L'adolescent a souvent ressassé ce jour de 2015, le dernier où il les a vus. Il a passé en revue chaque détail. Avant de prendre la mer, le passeur, un Kurde de Turquie, m'a dit « Tu ne peux pas rester avec eux. Tu dois aller dans le bateau avec les hommes. » Wally salue ses parents. Prend le numéro de téléphone turc de son père. Leur embarcation part avant la sienne. Les passeurs n'ont même pas de vrai bateau. Ils le gonflaient, les canaux, devant nous avec des pompes à air. S'énerve Wally, les silhouettes de ses parents, de Samina, de Samsour, ça me nuit sur la mer Égée et disparaissent au loin. En 2015, l'automne est dur en Grèce. Les vents violents secouent les vagues. Des dizaines d'exilés périssent dans des naufrages.
Wally débarque sain et sauf sur une île grecque. Après 3 heures horribles, plein de gens pleurés. Et il ne verra jamais accoster le bateau de ses proches. Le numéro turc de son père ne passe plus. Si je pouvais aujourd'hui, j'irais en Turquie. J'irais tuer ce passeur qui m'a séparé de ma famille, enrage Wally. Perdu dans le flot des réfugiés qui arrivent quotidiennement par centaines sur l'île grecque, le mineur croise un Afghan de Kaboul. Ensemble, ils arpentent les camps en quête de ses proches. Mais je n'avais pas de photo d'eux. Après 3 jours de vaines recherches, il décide de continuer sa route dans l'espoir de les retrouver en chemin. Son compagnon afghan se rend en Allemagne. À l'époque, ce pays voulait bien des étrangers. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ils n'en veulent plus. Et puis, les frontières étaient gratuites. Wally poursuit sa route en direction de l'Angleterre parce que je savais que mon père voulait y aller. Il se rend à Calais, puis découvre le quotidien précaire dans la jungle, ce vaste camp de quelques 9000 réfugiés aux allures de bidonville. C'était finalement très compliqué de passer au Royaume-Uni et je n'avais pas d'argent pour payer les passeurs. Il faut 3000 euros en moyenne pour cacher des migrants dans les camions. Des associations à Calais m'ont conseillé de rester en France. Bloqué dans l'Hexagone, Wally se concentre sur ses recherches. Il ne sait pas où frapper pour trouver de l'aide. Fin 2017, il rencontre une femme de l'organisation France Terre d'Asile. Elle m'a emmené voir la Croix-Rouge. Je lui ai raconté mon histoire. J'ai envoyé une lettre à ma dernière sœur qui vit en Afghanistan. Je lui ai raconté toute l'histoire, je lui ai donné mon numéro et demandé de m'appeler. Mais elle n'a pas répondu. Elle vit dans un village sans internet ni téléphone, regrette-t-il. Je les cherche sur Google, sur Facebook, tous les membres de ma famille qui ne sont pas sur ces réseaux. J'ai tapé le nom de mon petit frère au cas où, mais plein de gens portent le même nom. Il désespère. Je m'inquiète, mais pourquoi mes parents ne me recherchent-ils pas? Lorsqu'il est seul, il se force à arrêter de penser à sa famille. Si je pense trop à elle, dans un mois je deviens fou, je ne peux pas travailler. Alors je vais au lycée, je traîne avec mes potes en ville. Je cours, je rentre, je vais au lit, je ne pense pas. Il ne veut pas rester seul dans sa chambre, cette pièce, son repère, où flotte une odeur de thé. Sa fenêtre donne sur des maisons en briques sous un ciel laiteux et des rues désertes. Sur son bureau trônent des gants de boxe, l'autre exutoire de Wally. J'aime le combat. Quand j'étais en Afghanistan, je me bagarrais souvent. Cet admirateur de Mohamed Ali ira plus loin, assurait-il. Je voulais faire du mixed arm. Martial art ou free fight, même si c'est violent. Il essaye de préparer aussi un avenir professionnel. Je fais un CAP restauration. Tu apprends à avoir le cœur dur. Et quand tu as le cœur dur, tu te fiches de tout. Voilà, c'est un témoignage quand même qui moi a vraiment touché et qui montre les vies très très compliquées avant que ces jeunes arrivent en France. Et en France, celui-ci, il a été pris en charge, mais combien se trouvent à la rue.
Et la vie d'autres jeunes qui, comme eux, étaient dans des embarcations et qui ont vu leur famille se noyer sous leurs yeux et qui ont continué malgré tout et qu'on jette quand ils arrivent ici et qu'on maltraite encore.
Donc ce que parlait Walid, moi je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, c'est un site pour aider à retrouver ses proches disparus. Effectivement, la Croix-Rouge, le Haut Commissaire des Nations Unies essaye avec des photos de publier les photos, les informations sur les gens. Et quelquefois ça marche, mais là c'est vrai que pour Walid, on est très, très pessimiste quand il nous raconte ce qui s'est passé lors de son passage de la mer Méditerranée, quoi.
Égée.
Dans la mer Égée, oui.
La mer Égée, excusez-moi. Oui, oui, très bien. Merci, mesdames les géographes, meilleures que moi. Alors, Françoise ?
Oui, eh bien, pour vous dire que notre prochaine émission aura lieu le mardi 14 mai de 19h à 20h. Et pour vous prévenir aussi que nous tiendrons un stand d'Amnesty à Sassonne à la Porte, les 8 et 9 juin, à Grosseuvre, pour le week-end de Pentecôte.
Festival qui est gratuit, alors il faut alors, y aller.
Alors, on l'aime bien, nous.
Ah, ils sont super.
Voilà, et puis ça prend de l'ampleur d'année en année, c'est ouais. Vraiment très très agréable. Alors, comme tu es déjà au mois de juin, Françoise, tu vas vite quand même.
Oui, mais...
Fin juin, nous, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de faire que tout le monde parte en vacances avec...
Des livres.
Avec plein de petits livres, hein. On va vous reparler, là, sans doute, le dernier dimanche du mois de juin. Une petite foire aux livres devant notre stand...
Devant notre local.
Notre local au Faubourg Saint-Léger, hein. Vous en avez déjà un petit peu l'habitude. Donc, pensez-y. Vous aurez tout un choix de livres, hein, et vous pourrez comme ça soutenir l'action d'Amnesty Évreux. C'est quand même aussi...
On a besoin de vous.
On a besoin de vous, même si nous, voilà, par rapport à toutes les missions qu'on vous a faites, bah, c'est quand même plus facile d'être défenseur des droits de l'homme. Voilà.
Et si vous avez des bouquins à donner, n'hésitez pas, ne les jetez
pas. Des beaux bouquins, vous savez.
Ça peut servir à d'autres.
Vous mettez un mail sur amnesty.evreux@gmail.com.
Voilà, eh bien écoutez,
on vous souhaite une bonne soirée.
Une bonne soirée, allez signer les pétitions, il y en a plein.
Voilà, allez voir les petits clips sur le site d'Amnesty, c'est aussi très agréable comme information.
Bonsoir.
Bonsoir.
Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.